Bonsoir à tous, bonsoir Gérard.
Bonsoir André.
C'est Attaque. Eh oui, c'est Attaque 18, le groupe Attaque de la région de Bourges qui vous parle tous les quatrièmes vendredis du mois sur Radio Résonance 96.9. Par exception, cette fois-ci, c'est le troisième, mais d'habitude, c'est le quatrième.
Oui, mais qu'est-ce qu'on dit chez vous ?
Qu'un autre monde est possible. Un monde juste, solidaire, durable et démocratique. Parfaitement.
Cette émission, Confinement oblige, sera comme la précédente, un petit peu différente. Ni Jeanne-Marie, ni Louis-Claude ne sont en studio. Et nous les saluons au passage. Émission qui commencera par un retour sur l'actualité, puis nous écouterons la chronique de Louis-Claude.
Puis nous écouterons l'entretien que nous ont accordé Yannick Leprêtre et Joël Frison du Mouvement de la Paix à propos du vote à l'ONU de l'interdiction des armes nucléaires.
Alors André, quoi de neuf dans l'actualité ?
Ben, l'actualité sanitaire a fait passer au second plan quelques événements qui ne sont pas sans importance quand même. En France, alors que les résistances à la loi sécurité globale s'amplifient, le 4 décembre ont été publiés au journal officiel trois décrets étendant la possibilité de fichage dans les bases de données de la police et de la gendarmerie, des opinions politiques, religieuses, de l'appartenance syndicale ainsi que des données de santé ou relatives aux troubles psychologiques et psychiatriques, les habitudes de vie, les déplacements, les pratiques sportives, les activités sur les réseaux sociaux d'individus considérés comme suspects pour, je cite, « la sûreté de l'État ou les intérêts fondamentaux de la nation ». Alors comme c'est la police qui décide, on ne sait pas trop qui peut être mis là-dedans, hein, potentiellement n'importe qui. Tout ça, bien sûr, sous couvert de la lutte contre le terrorisme. La CNIL, Commission nationale pour l'informatique et liberté, a émis des réserves. Plusieurs députés, le syndicat FO, et ainsi que pas mal d'associations se sont déjà élevés contre ce nouveau coup porté à nos libertés démocratiques. Alors qu'on célèbre le 5e anniversaire de l'accord de Paris sur le climat, la revue Alternative économique de décembre indique que chaque Français émet en moyenne environ 11 tonnes de CO2 chaque année. Là-dessus, seulement 5 tonnes sont émises sur le territoire national, par exemple pour le chauffage ou les transports. Le reste, c'est-à-dire 6 tonnes, est émis hors du territoire national pour fabriquer les produits que nous importons et pour les transporter jusqu'à chez nous. Ces émissions continuent à progresser. Si la Chine est de loin le premier pollueur mondial en CO2, une partie de ces émissions sont indirectement les nôtres. Il ne suffira donc pas de réduire nos émissions directes, il faudra aussi qu'on réduise nos émissions importées. Pour rester dans le même sujet, il y a quelques jours, 200 scientifiques ont demandé à l'Union européenne d'abolir le traité sur la charte de l'énergie, signé à la fin des années 90. Longtemps resté dans l'oubli, il est maintenant utilisé par les entreprises du secteur des énergies fossiles pour protéger leurs intérêts au détriment de l'intérêt général. Car, comme dans les traités de libre-échange, les entreprises peuvent attaquer devant un tribunal d'arbitrage international les États qui prendraient des mesures susceptibles de nuire à leurs intérêts. Un exemple parmi beaucoup d'autres, en 2019, les Pays-Bas ont voté une loi pour interdire progressivement l'usage du charbon pour la production d'électricité. Une multinationale allemande qui avait ouvert une centrale à charbon en 2016 envisage une action pour exiger de grosses compensations financières à l'État néerlandais. Mais cet exemple n'est pas isolé, il y en a d'autres, ce qui peut considérablement freiner l'urgente diminution du recours aux énergies fossiles. Enfin, quelques mots sur le film Hold Up, qui depuis sa sortie défraie la chronique. Il semble qu'il ne soit plus accessible. J'ai essayé hier soir de l'avoir pour vérifier quelque chose, on ne pouvait plus l'avoir. Alors, pendant 2h30, ce film nous présente un mélange de vérité, de contre-vérité, d'insinuations sans fondement, de théories fumeuses. C'est foisonnant, contradictoire, parfois drôle, souvent ennuyeux, parfois aussi complètement délirant. Son réalisateur, catholique traditionnaliste sino-intégriste, donne la parole à des intervenants pour la plupart issus de l'extrême droite complotiste. Mais pas que. Il a piégé l'ancien ministre d'Ouste Blasi et Monique Pinson-Charlot qui ont ensuite réfuté le contenu du film. Monique Pinson-Charlot a déclaré qu'on avait gardé que quelques secondes d'une interview d'une heure, déformant complètement son propos. Bon, il ne reste pas moins qu'elle a eu des paroles pour le moins malheureuses. Alors, on ne va pas vous raconter le film. Hein. La presse et les médias en ligne en ont donné des critiques et commentaires. Le Monde, par exemple, a mené une démolition argumentée de pas mal des affirmations qu'il contient. Si vous voulez des commentaires politiques, plusieurs médias en ligne, de gauche et d'extrême gauche, le placent dans son contexte complotiste d'extrême droite. Vous en trouverez une liste sur notre site. Alors, pourquoi cette propension de l'extrême droite au complot ? Pourquoi, par exemple, le film prétend-il que le coronavirus serait sorti d'un laboratoire et ne dit pas un mot de l'explication de moins la plus probable, celle du contact avec un virus animal, comme pour toutes les épidémies précédentes ? Peut-être parce que cela mettrait en cause la destruction des milieux naturels, ainsi que les bombes à retardement que constituent les élevages industriels, comme on le voit avec les visons ou les canards dans le sud-ouest. C'est-à-dire que ça mettrait en cause le modèle économique dominant. Et c'est peut-être là le fond du problème. Ne pouvant s'en prendre aux vrais responsables, on en invente des imaginaires. Il n'en reste pas moins que l'impact de ces théories complotistes est un symptôme d'une terrible crise de confiance envers les pouvoirs politiques, les médias, et même depuis la crise sanitaire envers les scientifiques qui se sont contredits parce que trop d'entre eux n'ont pas eu la modestie de dire publiquement « nous ne savons pas ». Mais cette méfiance justifiée doit-elle nous faire abandonner tout esprit critique et avaler les bobards les plus extravagants ?
Merci André, et maintenant voici la chronique de Louis-Claude.
Je voudrais souhaiter un joyeux Noël à ceux qui nous écoutent, qu'ils soient catholiques ou pas. D'ailleurs, il n'est nul besoin d'avoir un grand talent d'observateur pour constater que la dimension religieuse de Noël, même si elle persiste auprès des catholiques pratiquants, a été largement supplantée par la célébration païenne du dieu consommation. Et ce n'est pas cette année où le Black Friday s'est encore rapproché du 25 décembre que l'on pourra se persuader du contraire. J'avais évidemment l'intention de m'adresser en toute priorité aux enfants, puisque Noël et d'abord leur fête, mais une question m'est venue à l'esprit que j'adresse aux adultes qui ont une responsabilité dans ce qui arrive aux mômes de la planète. Question, comment pourrez-vous vivre de belles fêtes de fin d'année sans troubles gastriques majeurs, compte tenu des quelques situations suivantes que vous ne pouvez pas ignorer? Des enfants survivent avec 5000 autres migrants dans le camp de réfugiés de Moria, sur l'île grecque de Lesbos, dans la boue, le froid, sans électricité, mais avec les rats et le risque de contamination par le coronavirus après qu'ils aient essayé de traverser la Méditerranée. Des enfants palestiniens sont détenus dans les prisons d'Israël, sans motif ni procès. D'autres enfants de Gaza ont été blessés par des snipers israéliens et ont dû être amputés faute de soins adaptés. Des centaines de milliers d'enfants crèvent de faim, oui, j'ai dit crèvent, sur notre planète, quand certains parmi les obèses ne le sont que par excès de consommation d'aliments trop riches. Et parmi ces adultes qui pourront début janvier faire un détour par la pharmacie du coin pour soigner leurs très improbables troubles gastriques, je voudrais décerner quelques distinctions pour leurs éminents services à la cause éducative internationale. Aux tortionnaires libyens qui voient revenir dans leur giron celles et ceux qu'ils ont déjà torturés, volés, violés, battus, rançonnés, ramenés par les gardes-côtes qui les récupèrent avec la collaboration de Frontex, cette belle invention de certains États de la rive nord de la Méditerranée. Une médaille à décerner aussi à tous ces faux culs européens qui se prétendent humanistes et sont même capables de verser une larme sur le sort des migrants qui meurent en mer. Politiciens émérites, dont la rigueur n'a d'égal que la finesse, ils affirment que les accords internationaux doivent être respectés, dont celui de Schengen, laissant à la Grèce, à l'Italie, à l'Espagne, à Chypre ou encore au Liban ou à la Turquie, le soin de se débrouiller avec les réfugiés, tout en ouvrant à Ankara le droit au chantage d'État. Et puis le grade de chevalier dans l'ordre de la raison du plus fort doit être décerné à tous ces Israéliens qui soutiennent la colonisation de la Cisjordanie, qui se l'approprient à coups de destruction de villages et de plantations, et qui soutiennent l'apartheid de leur gouvernement. Mais heureusement, il y a sur la planète des hommes et des femmes dont je salue le courage et auxquels je souhaite sincèrement un joyeux Noël. À tous ces autres Israéliens qui désirent réellement vivre en paix, à égalité de droits avec les Palestiniens, qui refusent cette politique d'extrême droite de Netanyahou, je souhaite en particulier un joyeux Noël à cette jeune Israélienne de 19 ans qui refuse de porter les armes, ce qui lui vaut d'ailleurs de connaître la prison de son pays. Je souhaite un joyeux Noël aux militants associatifs français, anglais, européens, du monde, voire même d'ailleurs, qui n'acceptent pas ces situations et essaient de venir en aide à tous ces hommes, à toutes ces femmes, à tous ces enfants qui voudraient vivre en paix et en sécurité. Je souhaite un joyeux Noël à ces vrais humanistes européens dont les bateaux sont immobilisés à quai ou sont interdits d'accoster et stationnent en mer pendant des jours, voire des semaines, au large de Chypre, de l'Italie, de l'Espagne ou à Marseille, coronavirus à bord. Je souhaite un joyeux Noël à ces 150 Français qui ont participé à une commission de citoyens en vue d'élaborer des propositions relatives à l'environnement, qui ont cru que leurs propositions serviraient de base à quelques projets de loi, qui ont cru que cet exercice était démocratique, qui ont cru que le président honorerait sa promesse de tenir compte des résultats de leurs travaux, depuis d'ailleurs ramenés à l'état de truc, qui voit apparaître le référendum comme outil de plébiscite d'un président en recherche de réélection quand il voulait en faire un moyen concret de faire avancer une cause planétaire. Je souhaite un joyeux Noël au personnel des hôpitaux et des EHPAD qui continuent de bosser pour essayer de sauver des vies parfois au péril de la leur et que certains ont applaudi. N'oublions pas, ceux qui ont été applaudis étaient des héros et des victimes. Dès l'instant où ils redeviennent des travailleurs, il semble qu'il n'existe plus de raison de se souvenir d'eux, de leur donner les moyens de travailler au service des malades, de leur donner des salaires à la hauteur de leurs qualifications et du service rendu. Je souhaite un joyeux Noël, enfin, aux instituteurs, professeurs, universitaires, de plus en plus confrontés à leur autoritarisme d'un ministre qui grignote petit à petit leur indépendance pédagogique au mépris de la culture scolaire et universitaire. Je le souhaite à tous ces enseignants et autres personnels de l'éducation nationale soumis au cumul d'injonctions contradictoires de toutes origines, largement inspiré par une technocratie élitiste ou par des experts médiatiques autodésignés qui veulent avant tout préserver leurs intérêts de classe. Enfin, je souhaite un joyeux Noël aux enfants, à leurs parents, à leurs grands-parents, et d'abord à ceux qui écoutent Radio Résonance, et puis après tout, on n'est jamais si bien servi que par soi-même, des fêtes de fin d'année encore plus joyeuses aux auditeurs de l'émission d'Attaque 18. À l'an prochain!
Regardez, il neige. L'hiver tombe sur nos contrées. Le soleil est bas, les arbres ont maigri. On voit apparaître au-dessus des fenêtres une marionnette rouge à barbe dansée. Les gamins d'Occident, s'ils ont été gentils, auront plein de cadeaux. Mais ce personnage qui paraît tendre, où est-il de janvier à décembre? Toute l'année, il fait fabriquer ses cadeaux par des ouvriers de 10 ans en entrepôt qui, pour faire ce qui finira sous le sapin, n'iront jamais à l'école et ne liront rien.
Hey! Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa hotte et mets-lui des calbottes, fais-lui manger sa fausse barbe et gorge ses rennes et préviens ses escrocs qu'il est bon pour la GN.
Pour s'accaparer les matières premières, le Père Noël entretient la corruption et la misère dans ses anciennes colonies où il a toujours les meilleurs prix.
Le pétrole qui fait ce qu'il plastifie finit parfois dans la mer sans qu'on s'en méfie. Et quand il sert à livrer ses joujoux par milliers, il dérègle le climat du globe.
On dit qu'il passe par tous les toits.
Dommage qu'au Burundi y ait pas de cheminée.
Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa robe et mets-lui des calbottes, fais-lui manger sa fausse barbe et gorge ses rennes, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa robe et mets-lui des calbottes, fais-lui manger sa fausse barbe et gorge ses rennes, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN.
Père Noël distribue les boîtes de chocolat, les tranches de saumon, les blocs de foie gras.
Se perpètent les panses des porcs à perpète,
qui rit comme des morts et appelle ça les fêtes. En novembre, ils vend des figurines de G.I. Des tanks et des canons pour la marmaille.
L'arsenal se collectionne.
Les parents qui trippent auront-ils la maille?
Voici décembre, c'est parti. Les Barbies
Arcadie, blonde squelettique, ne pensant qu'aux 4-4 de Ken. Et ces jeux vidéo qui tombent de la haute donnent-ils aux ados le sens de la lutte?
Génération vertueuse en virtuel, qu'aura-t-elle fait de bien dans le monde réel?
Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa hotte et mets-lui des calbottes, fais-lui manger sa fausse barbe, égorge ses reines, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa hotte et mets-lui des calbottes, fais-lui manger sa fausse barbe, égorge ses reines, et préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN.
On ramasse des cadavres chaque matin en Inde. Ça n'empêche pas le Père Noël de gaver ses dindes.
D'arroser les âmes pour que l'ivresse oublie que plus de 5 milliards d'hommes n'ont pas ce mode de vie.
Que les brevets des médicaments valent de l'or.
Plus de valeur en tout cas que des millions de morts.
C'est le pervers Noël et sa supercherie vénale qui te fait supermarché dans les hypermarchés.
Je le croyais polyglotte, est-il complètement bête pour ne pas pouvoir répondre à toutes les lettres et les requêtes?
Je croirais bien plutôt qu'il préfère les chiffres aux lettres
et le verbe avoir
aux verbes
et les riches et les prêtres.
Homme d'affaires irréprochable, cherche personnage impeccable avec sentiments charitables pour mascarade en guise de fable.
Si tu vois le Père Noël,
vous écoutez Radio Résonance 96.9 et c'est l'émission mensuelle d'Attaque 18. Et voici maintenant l'entretien que nous ont accordé Yannick Leprêtre et Joël Frison du Mouvement de la Paix.
Eh bien, Joël Frison et Yannick Leprêtre, vous êtes membres du Mouvement de la Paix. Et vous êtes là pour nous parler d'un traité international qui vient d'être signé à l'ONU concernant l'interdiction des armes nucléaires. Et ce traité a été signé par plus de 100, d'une bonne centaine de pays, 122 je crois.
122 à l'ONU.
Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour qu'il soit applicable, il faut qu'il y ait une cinquantaine d'États qui le signent, qui le ratifie plutôt, et ça y est, les 50 États ont ratifié, il y a 50 États qui maintenant ont ratifié ce traité.
Oui, c'est le cas. Le 24 octobre de cette année, le 50e État l'a ratifié, hein, et donc le traité va rentrer en vigueur 90 jours après. C'est-à-dire qu'il va rentrer en vigueur normalement le 22 janvier 2021.
Oui, mais je crois que ce traité n'est pas arrivé tout seul quand même. C'est suite à plusieurs années d'action et de discussion.
Effectivement, sa préparation a commencé en 2007 avec la création d'ICAN, la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Et en 2007, ICAN et la Croix-Rouge internationale se sont réunies et suite à leur réunion, elles ont déclaré qu'elles étaient vivement préoccupées par les conséquences catastrophiques sur le plan humanitaire qu'aurait l'emploi des armes nucléaires. Et avec l'appui de l'ONU, elles ont décidé d'organiser des conférences intergouvernementales. Il y en a eu trois en 2013 et en 2014. En Norvège, au Mexique, la dernière a eu lieu à Vienne en 2014, et 152 États de l'ONU y participaient. Voilà, en 2016, l'Assemblée générale de l'ONU a décidé la mise à l'étude du traité d'interdiction des armes nucléaires, et ce texte a été proposé au vote de l'ONU, de l'Assemblée générale de l'ONU, le 17 juillet 2017. Et le texte a été adopté par 122 pays qui ont voté pour, un seul a voté contre, un s'est abstenu. Mais 69 États étaient absents et n'ont donc pas participé au vote.
Ah oui, donc c'est-à-dire qu'en réalité, les États, je présume ceux qui ont l'arme nucléaire, ceux qui ont déjà l'arme nucléaire, ceux qui veulent l'avoir comme l'Iran, plus tous les États sur lesquels
les grandes puissances nucléaires ont pu faire pression. Ils n'ont même pas voté contre. Ils ne se sont pas abstenus, ils ne sont pas venus, c'est tout.
Ils ont boycotté la préparation du texte du traité et ils ont boycotté le vote. Ils étaient absents. D'accord. Un seul était présent, les Pays-Bas, qui sur son territoire a des armes nucléaires.
Américaines, oui.
Américaines. Et lui, il était présent, alors que le gouvernement des Pays-Bas ne voulait pas, mais le Parlement du Pays-Bas a obligé le gouvernement du Pays-Bas à envoyer une délégation à l'ONU. Et la délégation à l'ONU, sur l'ordre du gouvernement, a voté contre. Ça a été le seul pays qui a voté contre.
D'accord. Donc, alors, maintenant, on a un traité international qui interdit les armes nucléaires. Alors, qui interdit l'usage, qu'est-ce qu'il interdit exactement ?
Alors, il interdit de mettre au point, de mettre à l'essai, de produire, de fabriquer, de posséder, de stocker, de transférer ou d'employer, même de menacer d'employer des armes nucléaires. Donc, tout ça, c'est interdit.
Donc, il interdit de fabriquer, bien sûr, de stocker, de transférer, on va voir que ça peut être important, et même de menacer de leur emploi. Bon, ceci dit, si on les a, c'est qu'effectivement, implicitement, on menace les autres de les employer. Alors, donc, ce traité est signé, et qu'est-ce que ça peut donner, ce traité ?
Alors, ce traité qui est signé, ratifié, qui entre en vigueur dans...
Voilà, fin janvier, quoi.
Voilà, fin janvier. Finalement, c'est ce traité à valeur de droit international. Alors, vous me direz, droit international, si un pays ne le ratifie pas, il ne s'engage pas, qu'est-ce que ça change pour lui ? On pourrait penser, c'est le cas de la France, par exemple, qui fait partie des 9 ou 10 États qui possèdent l'arme nucléaire.
Les 9 qui l'ont déjà et le 10e, l'Iran, qui veut l'avoir et qui finira sans doute par l'avoir, malheureusement.
Alors, on pourrait penser que ça ne nous concerne pas, finalement. Eh bien, moi, je pense plutôt qu'on doit s'y consacrer et étudier les choses. Parce que ce droit international qui précise qu'on ne peut pas transférer, qu'on ne peut pas menacer d'utiliser, eh bien, qu'est-ce qui se passe pour un pays comme la France, par exemple, les États-Unis, la Russie, l'Angleterre, la Chine ? Qu'est-ce qui se passe quand on est tel qu'on est aujourd'hui, avec des sous-marins, dans des eaux internationales ? Est-ce qu'on n'est pas en situation d'alerte permanente, hein ? Alors, c'est les eaux internationales ou c'est l'espace aérien international ? Tel que ça se passe actuellement. Eh bien, on est en situation où on transfère, et au nom de la dissuasion, puisque c'est la théorie française, on est en menace d'usage dans un espace international. Eh bien, quand il s'agit du droit international, même si on ne l'a pas ratifié, si on n'est pas chez nous, eh bien, on doit le respecter.
C'est-à-dire qu'on est en infraction.
C'est-à-dire qu'on est en infraction. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça change, cette ratification ? Eh bien, ça change que les pays détenteurs, s'ils continuent à se comporter tels qu'ils se comportaient aujourd'hui, eh bien, ils sont des États voyous. Ils transgressent le droit international. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, actuellement, c'est récent, aujourd'hui, on peut dire qu'à l'ONU, il y a 130 pays, là, suite à l'Assemblée générale du 7 décembre, il y a 130 pays, donc on en a 7 de plus ou 8 de plus qu'il y a 3 ans, qui disent qu'il faut aller vers l'adoption de ce traité. Eh bien, ces 130 pays, eh bien, ils sont légitimes, on doit les entendre. Et nous, Français ou Américains, qui sommes majoritaires, et toutes les populations dans le monde, qui sont majoritaires pour dire que cette arme de destruction massive, qui est la dernière qui n'était pas interdite, désormais elle l'est, eh bien, on a le droit d'être entendu et on a le droit de faire avancer les positions et faire évoluer les positions, je pense. Et je pense aussi aux États, aux espaces, aux territoires sur lesquels il y a eu des essais. Eh bien, nous, en France, par exemple, nous avons fait des essais en Algérie. Nous avons fait des essais aussi en Océanie. Mais en tout cas, en Algérie, par exemple.
Qui est un État étranger. Mais...
Qui est un État étranger. Eh bien, dans ce traité, il est précisé que les États qui ont fait des essais doivent prendre en charge les réparations, le traitement de la situation dorénavant. Eh bien, pour le moins, l'Algérie serait en droit de demander quelle est la situation réelle, où sont entreposés les déchets, quels sont les enjeux encourus. Ils sont sur leur territoire, ils sont souverains. Pour le moins, ils doivent pouvoir avoir connaissance des choses. Et puis, ils pourraient, quand ils l'auront ratifié eux aussi, ils pourraient demander réparation à la France. Il me semble que nous devons être responsables de tout ça. Donc, ce traité, il appelle, du coup, je considère que ce traité, il appelle les populations, les peuples, et donc nous tous citoyens, à réagir, à nous emparer de ça. Parce que n'oublions pas que si ces évolutions ont eu lieu, si ce traité d'interdiction des armes nucléaires est maintenant en vigueur, c'est parce qu'on a complètement mesuré, et les populations, les sociétés civiles ont mesuré combien cette arme de destruction massive a une conséquence humanitaire démesurée. Je veux dire que c'est la vie sur Terre. Et là, on se rapproche complètement des enjeux climatiques. C'est la vie sur Terre qui est menacée avec cette arme de destruction massive.
Oui, alors, on en parle moins maintenant, mais enfin, il y a quelques années, une vingtaine d'années, au moment de la guerre froide, enfin, même plus que ça, 30 ou 40 ans maintenant, on parlait de l'hiver nucléaire, que si vraiment il y avait un tir massif d'armes thermonucléaires, ça pourrait, en envoyant dans l'atmosphère des millions et des millions de tonnes de poussière, filtrer les rayons du soleil et amener une très forte diminution de la température sur Terre qui pourrait amener une diminution de la végétation. Et donc, peut-être, en mettant les choses au pire, amener des famines et la mort de plusieurs milliards de personnes, sinon même, en mettant les choses au pire, la destruction de l'humanité. Mais de toute façon, l'usage des armes nucléaires, ça signifie des millions, des dizaines, voire des centaines de millions de morts, et ensuite la dispersion de produits radioactifs extrêmement nombreux.
Donc on a tout cet aspect-là sur la mise en cause de la vie et de la qualité de vie sur Terre. Et puisqu'on est sur cette dimension, la vie et la qualité de vie sur Terre, moi je pense que il faut pas oublier que cette posture avec ses choix de dissuasion et de modernisation, il faut savoir que c'est quand même un peu plus de 5 milliards par an en France, c'est-à-dire 9000 euros par minute qui sont dépensés pour maintenir cette arme et cette menace au service de cette théorie de dissuasion qui est suicidaire. Eh bien, je pense que ça doit nous interpeller. 9000 euros par minute. Ça veut dire que la vie sur Terre, eh bien, il y a plein d'enjeux, hein. Là, dans le contexte, aujourd'hui, on sait combien on est miné par notre situation sanitaire avec notre épidémie, on a un enjeu climatique monumental. Eh bien, en plus d'aggraver la situation sur le plan sanitaire et sur le plan de l'enjeu climatique, l'arme nucléaire, elle est en train d'utiliser, d'absorber des quantités d'argent monumentales qui vont de fait au détriment de la qualité de vie et des besoins sanitaires et environnementaux, en tout cas des besoins humains. Quoi.
Parce qu'il y a aussi un autre aspect, parce que même si ces armes nucléaires ne sont pas utilisées, il y a eu quand même des accidents. À plusieurs reprises, des avions se sont crashés avec des bombes, par exemple, où on largué par accident des bombes qui, heureusement, n'ont pas explosé, mais qui, quand même, ont fait des dégâts.
Oui, ça a été le cas en Espagne, Et en Espagne, des bombes nucléaires sont tombées sur le sol, elles ont éclaté, elles n'ont pas explosé, mais elles ont éclaté, elles ont répandu du plutonium. Il y a encore en Espagne des hectares qui sont inutilisables parce qu'ils sont contaminés par le plutonium. Alors on peut imaginer par exemple qu'à Avor, dans le Cher, que tout le monde connaît, dans la base aéronautique d'Avor, eh bien, des avions atterrissent ou décollent de la base d'Avor avec des armes nucléaires. Le jour où une de ces bombes nucléaires va tomber, eh bien, on peut imaginer qu'il risque de se passer la même chose qu'en Espagne, c'est-à-dire des hectares de la base d'Avor ou des alentours de la base d'Avor seront inutilisables pendant des années. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les conséquences seront des conséquences pour les générations actuelles, mais aussi pour les générations futures, hein, puisque les armes nucléaires, le plutonium en particulier, ça émet des radiations qui vont durer des centaines, voire des milliers d'années, et peut-être plus. Et voilà, en particulier les femmes seront particulièrement concernées. Hein, et dans le traité d'interdiction des armes nucléaires, il est question de des conséquences humanitaires pour les générations actuelles, mais aussi pour les générations futures.
Oui, alors maintenant que ce traité existe, hein, il a été signé, ratifié, donc en fin janvier, il va être, je dirais, en vigueur. Est-ce que il y aurait moyen, est-ce que vous comptez marquer le coup d'une certaine façon ?
Et oui, objectivement, là, ce qu'il faut faire avancer, c'est que on est à 130 pays qui sont convaincus. Il faut que l'ensemble des pays soient convaincus. Il faut que l'ensemble des États se rallient à cette cause. Hein. Et pour ça, il faut que tous les citoyens, toutes les organisations qui le souhaitent et qui en sont convaincus, fassent bouger les lignes, quoi. Et donc, du coup, nous, on a vraiment envie à la fois d'informer, mais aussi de célébrer cet événement, parce que c'est une étape déterminante pour nous. Et ben, à Bourges, on va lancer une initiative fin janvier pour qu'on s'informe et qu'on agisse, qu'on célèbre aussi cette étape déterminante, de sorte que même la France ratifie, même les États-Unis, même la Russie, même la Chine, même l'Angleterre, que tous se rallient à cette évidence, débarrassons-nous de ce qui nous menace.
Ces gouvernements ne le feront que quand leur population, quand leurs citoyens les y auront contraints.
Et d'où l'importance de s'informer, de se mobiliser, d'agir et de jouer de notre rôle fondamental de citoyen.
Eh bien, merci. On vous reprend rendez-vous pour la fin janvier. Alors,
allez. Merci à vous.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Que se passe-t-il ? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais dans une rue, au milieu de la cohue, sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruit. Un garçon m'a souri et je me souviens qu'il me suivait. Il me suivait sous un joyeux soleil de mai. Chemin faisant, j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. Ce drôle de bruit, je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher et d'un air étonné tout le monde a levé le nez vers le ciel angélique, couleur de paradis. D'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange. Est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens guettaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant. Et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qu'un désert de gravats de poussière, qu'un silence à hurler à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux, un garçon dont les yeux étaient pleins du soleil de mai. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve. Réveillez-moi, réveillez-moi, réveillez-moi.
Vous écoutez l'émission mensuelle d'Attaque 18 sur Radio Résonance 96.9. Alors André, qu'as-tu retenu de tes lectures ce mois-ci ?
Erreur, le livre dont nous allons parler aujourd'hui s'intitule « Le trou noir du capitalisme ». Son auteur, Jean-Marie Arribet, est membre du Conseil scientifique d'Attaque France, des économistes atterrés, de la Fondation Copernic, qui sont des laboratoires d'idées de la gauche alternative. Il est en retraite maintenant, mais avant, il était maître de conférences en économie à l'Université de Bordeaux. Il est déjà venu plusieurs fois à Bourges pour des conférences, et nous le connaissons bien. Le livre est publié aux éditions du Bord de l'Eau. Alors, son titre fait référence aux trous noirs, ces astres tellement lourds et massifs qu'ils attirent tout ce qui est autour d'eux et ne laissent même pas sortir la lumière. Depuis une cinquantaine d'années, le capitalisme fait pareil en attirant à lui tous les biens, comme l'eau, la terre, le vivant et toutes les activités humaines comme la santé et l'éducation pour les privatiser et en faire des machines à profit. Dans la première partie du livre, il analyse la crise du capitalisme. Parce que pour lui, le capitalisme est en crise en effet. Parce qu'il se heurte maintenant à deux obstacles. Le premier est écologique. Les ressources naturelles de la Terre deviennent de plus en plus rares, difficiles et coûteuses à exploiter, comme le pétrole ou les minerais. De plus, malgré les apparences, malgré les ordinateurs et les robots, la productivité du travail n'augmente presque plus. Elle n'est plus que de 1% par an dans les pays développés. Alors, pour maintenir son taux de profit, le capitalisme doit exploiter davantage la force de travail en diminuant les salaires réels et la protection sociale là où elle existe. C'est ce qui est en cours depuis les années Thatcher et Reagan. Mais à partir d'un certain point, cette exploitation des travailleurs elle-même devient un obstacle à la rentabilité car les gens n'ont pas l'argent pour acheter tous les biens et les services proposés. Alors, c'est aussi pour ça qu'ils privatisent tous les secteurs qui ne l'étaient pas auparavant comme la santé et l'éducation. Face à cette situation, l'auteur rappelle ce que disait l'économiste et philosophe d'origine hongroise Karl Polanyi au milieu du siècle passé. Si le travail, la terre et la monnaie étaient marchandisés, ce serait la mort de la société. Fin de citation. Eh bien, c'est cette marchandisation qui est en cours. Pour la contrer, l'auteur propose ce qu'il appelle une bifurcation. Elle doit concerner trois domaines. D'abord, le travail. Parce que pour les individus, il est central dans leur vie. Moyen de gagner de l'argent, bien sûr, mais aussi d'intégration dans la société, de construction de soi. C'est une des choses qui donne ou devrait donner du sens à la vie. Pour cela, il faut faire en sorte que les salaires et les prestations sociales ne progressent jamais moins que la productivité du travail. Ensuite, faire un droit du travail effectivement protecteur. Enfin, et c'est sans doute ce qui est le plus difficile car il touche au cœur du système, instaurer la démocratie dans les entreprises par la création de conseils économiques et sociaux de telle sorte que le pouvoir de décision soit dissocié de la propriété du capital. Ensuite, il faut instituer des communs, c'est-à-dire faire en sorte que toutes les ressources comme l'eau, l'air, le vivant, les connaissances et toutes les institutions donnant accès à l'éducation, à la protection sociale, à la santé, tous les éléments essentiels à la vie, soient soustraits à la marchandisation et que leur gestion soit effectuée au plus près par les gens concernés. Enfin, il faut resocialiser la monnaie, arrêter d'obliger les États à emprunter sur les marchés financiers et donner à la Banque Centrale Européenne la possibilité de créer directement de la monnaie pour financer les énormes investissements nécessaires à la transition écologique. Ces propositions s'appuient sur tout un travail théorique et parfois un peu ardu à lire pour le non-spécialiste, où il aborde, entre autres, la théorie de la valeur, les communs, la décroissance, le tout appuyé sur une époustouflante érudition. Pas moins de 27 pages de bibliographie à la fin du livre. En conclusion, on citera celle qu'il a donnée à une interview dans l'Humanité du 24 avril et à laquelle d'ailleurs ce compte-rendu doit beaucoup. Je cite « La mondialisation capitaliste est en cause. Elle aboutit à un désastre social, écologique, économique et aujourd'hui sanitaire. Elle nous menace de déflagrations géopolitiques, voire guerrières. Tout ce qu'elle a construit doit être démantelé. Circulation effrénée des capitaux, marché dérégulé, droits fondamentaux de la personne bafoués, notamment ceux des migrants. L'heure est à la construction de solidarité et de coopération aux échelons régionaux, à la restauration d'une régulation internationale sous l'égide de l'ONU dont les décisions doivent être respectées. Les scientifiques donnent l'exemple d'une coopération pour le bien commun. C'est le cas des climatologues du GIEC, de tous les virologues qui échangent en ce moment leur savoir librement, hors de toute contrainte et de brevets lucratifs. » Fin de citation.
Je rappelle le titre du livre, « Le trou noir du capitalisme ». C'est de Jean-Marie Haribet et c'est publié aux éditions du Bord de l'Eau.
Désirer, gagner, perdu, reprise et lâcher, emprunter, claquer, croquer, mais jamais donner. Ventiler, cracher, décompter et recompter. Monnaie, 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 monnaie. Détourner, cacher, payer, remise et voler. Alpaguer, mendier, piquer, jamais partager. Négocier, placer, rendu, amasser, brûler. Monnaie, 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 monnaie. Dépenser, entasser, multiplier, fausser. Diviser pour mieux régner, prélever, virer. Imposer, pirater, plumer, puiser, poisser. Argenté, zingué, cuivré, fer blanc, témoiré. Poinçonné, manipulé, chiffonné, plié. Épargné, estampillé, brumisé, piégé. Lessivé, lavé, blanchi et béatifié. Monnaie, 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 monnaie. Posséder, céder, protéger, privatiser. Consacrer, entrer, copier, jamais égaler. Échanger, attaquer, défendu, assurer. Monnaie, 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 monnaie. Respecter, mondialiser, flibuster, guigner. Côté capitalisé, jamais boycotter. Convoiter, héberger, hausser et rehausser. Monnaie, 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 monnaie. Détailler, attester, apurer, filouter. Adorer, amorer, déchirer, caresser. Comptabiliser, thésauriser, dévisser. Subdiviser, appauler, rapide et gérer. Vénérer, ardoiser, budgéter, hériter. Comparer, infléchir, cousu, mendicoter. Triturer, sacraliser, rançonner, rafler. Monnaie, 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 monnaie. Pénaliser, nettoyer, modeler, fourbis. Globaliser, anoblir, jamais aboli. Statuer, statifier, renifler, resquiller. Monnaie, 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 monnaie. Astiquer, bichonner, calculer, corriger. Authentifier, millésimer, collectionner. Médailler, moraliser, ritualiser. Monnaie, 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 monnaie. Mesurer, maquiller, maîtriser, moissonner. Additionner, soustraire, pêcher, piocher, pleurer. Oxyder, peroxyder, promise et reprise. Quantifier, stocker, honorer, harmoniser. Idéologiser, glorifier, gouverner. Humer, humecter, louanger, diviniser. Soupeser, vanter, voter, verser, reverser. Monnaie, 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 monnaie. Adopter, compenser, disputer, soutenu.
J'irai fondu, battu, jamais abattu. Stabilisé, dilapidé, normalisé. Monnaie, 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 monnaie. Évalué, managé, détroussé, quêté. Quémandé, numéroté, monopolisé. Quittancé, modernisé, actualisé. Monnaie, 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 monnaie.
Alors, pas d'agenda ce mois-ci, fête de fin d'année, confinement oblige. Mais on va maintenant se quitter pour fêter un Noël très particulier, hein, quand le couvre-feu n'est levé que pour un soir, que le virus qui a déjà tué près de 60 000 personnes rien qu'en France circule toujours, et qu'un million de personnes de plus ont été plongées dans la pauvreté et la misère. Pour combien de gens, combien d'enfants, ce jour sera encore plus triste que les autres? Noël pourrait être une belle fête, si elle n'avait pas été complètement dévoyée par la grande bouffe et la consommation. Quand l'an dernier encore, des réveillons à 1000 euros par tête voisinaient avec les Restos du Cœur et les DSDF passant la nuit dehors. Parce que Noël, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Son origine se perd dans la nuit des temps, et elle existait bien avant de devenir une fête chrétienne. On célébrait le retour du soleil. Nous sommes au moment de l'année où, depuis longtemps, il fait sombre, et il fait froid, mais où le plus dur de l'hiver est encore à venir. Pourtant, maintenant, imperceptiblement, les jours rallongent, la nuit recule. C'est au cœur de l'hiver, la promesse du printemps et des moissons de l'été. C'est tout naturellement que les chrétiens ont choisi ce moment pour célébrer la naissance du Christ. Noël, c'est la fête de l'espérance. Pas l'espérance passive et vaine comme, attendre le tirage d'une loterie, mais l'espérance active et déterminée quand on a la conviction que l'homme peut individuellement et collectivement surmonter les malheurs qui le frappent. Sans doute, nous aurons toujours des souffrances physiques et morales, des maladies, des accidents et des chagrins d'amour. La mort nous arrachera toujours des êtres qui nous sont chers. Mais bien au-delà de ce qui est dans notre condition humaine, toutes ces misères, ces souffrances, ce sang, ces morts, ces guerres, tous ces drames qu'a évoqué Louis-Claude tout à l'heure, n'ont rien d'une fatalité. Tout comme le désastre écologique dont la pandémie n'est qu'un élément, ils sont les fruits pourris d'un monde injuste et barbare où les prédateurs font la loi. Alors, à chacun de nous de lutter, là où il est, seul ou collectivement, pour rendre meilleur ce monde de malheur que les hommes se forgent, comme le chantait Jean Ferrat. C'est pourquoi Attaque 18 souhaite à toutes et à tous, à ceux qui croient au ciel comme à ceux qui n'y croient pas, un très bon Noël et une très bonne année d'espérance et de lutte, car un autre monde est possible qu'il va falloir construire, tous ensemble.
Voilà, c'est la fin de notre émission. Nous nous retrouverons le vendredi 22 janvier 2021 entre 18h10 et 19h sur Radio Résonance 96.9.
La présente émission sera rediffusée demain samedi à partir de 14h.
Vous pouvez aussi la réécouter en balado-diffusion sur le site d'Attaque 18 ou celui de Radio Résonance.
Vous pouvez de même réagir en allant sur notre site attaque18.org. Si vous voulez écrire, c'est Attaque 18, Maison des Associations, 28 rue Gambon-Bourges.
Nous avons écouté au cours de cette émission le groupe Joli Môme, Si tu vois le Père Noël, Morane, Il y avait une ville, la chanson de Claude Nougaro, et Christian Roux, Monnaie, Monnaie.
Au revoir à toutes et à tous et restez à l'écoute de Radio Résonance.
Au revoir.